Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Relire la Révolution, de Jean-Claude Milner. Alors, trois mots sur l'auteur. Jean-Claude Milner est né en 1941 et est un linguiste, philosophe et essayiste français. Et il a eu comme compagnon de route à l'École normale supérieure Jacques Rancière, Benny Lévy, Alain Badiou. Il a été professeur de linguistique à l'université Paris 7. Il a contribué à introduire en France les théories linguistiques de Noam Chomsky sur la grammaire générative. Il a suivi l'enseignement d'Althusser. C'était un familier de Jacques Lacan. Il a également suivi les enseignements de Roland Barthes et il a fait des lectures, des travaux sur Roman Jakobson. Et il a été directeur du Collège international de philosophie de 88 à 2001.
Ah oui.
Autrement dit, c'est du solide, c'est du lourd. Bon. Alors ce livre, comme on dit dans les commentaires de livres, dans les revues, c'est pour lecteurs motivés. J'ai trouvé que c'était un livre difficile, quoique écrit clairement par moments, mais c'est un livre difficile et je vais vous en restituer ce que j'en ai compris. Alors, mon plan est le suivant. Alors, le livre a été publié en 2016, c'est-à-dire qu'il intègre les derniers événements, les attentats qui se sont produits en France. Alors, mon plan, c'est le suivant. Relire pourquoi. La Révolution française en 1789, ça voulait dire quoi? Et le troisième point, c'est en quoi la Révolution française est une référence. Alors bien sûr, quand on dit relire la Révolution, c'est sous-entendu la Révolution française. Alors, pourquoi est-il possible de relire aujourd'hui les événements de la Révolution française? Pour trois raisons qu'il précise. D'abord, cet événement commence à être lointain pour nous. 1789, c'est loin. Et donc, on croit moins aujourd'hui à la force de la Révolution ou des révolutions qu'il y a encore quelques années. C'est une affirmation de l'auteur. Je reprends ce qu'il dit. La deuxième remarque est plus étonnante. Il dit que les auteurs de l'attentat du 11 septembre 2001 à New York n'ont pas fait référence aux révolutions ni françaises, ni soviétiques, ni chinoises. Il y a eu pour lui une sorte de basculement à ce moment-là qui faisait qu'on changeait d'air et il compare cela au moment où les Visigoths, en 410, se sont emparés de Rome. Et ça a fait un basculement dans l'histoire du monde. Enfin, troisième élément, les événements de 2015 ont rendu compréhensible et audible maintenant pour nous la violence et la langue révolutionnaire au travers des discours djihadistes. Et la preuve, c'est que les mots de la Marseillaise ont trouvé une nouvelle résonance et signification pour nous, avec les féroces soldats, le sang, etc. Donc, pour ces trois raisons, on peut maintenant relire la Révolution française de façon plus sereine. Alors, le point fort de son raisonnement, c'est que la Révolution française est un point de départ absolu et la référence en matière de révolution, tant par rapport aux révolutions, entre guillemets, qui l'ont précédée, qui ont été avant 1789, donc il pense à la Révolution anglaise de 1641, que d'ailleurs les Britanniques appellent Civil War, et la Révolution américaine de 1776, qui pour lui ne sont pas de vraies révolutions. La Constitution américaine de 1787 incluait l'esclavage, et celle de 1865 avec Lincoln l'excluer, l'esclavage, mais ça a entraîné la guerre de sécession. À ce stade, Milner nous dit qu'il s'oppose à la lecture qu'a fait Hannah Arendt de la Révolution américaine en contestant l'éloge inconditionnel de la Révolution américaine au détriment des Jacobins et de Robespierre. Donc, référence par rapport aux révolutions qui l'ont précédé et aux révolutions qui l'ont suivi, à savoir les révolutions soviétiques, chinoises et cubaines, qui, pour Milner, ne sont que des entreprises de conquête du pouvoir. Alors, pour mieux comprendre ce que signifie la Révolution française, il faut s'interroger sur ce que signifie le mot « révolution » en 1789. Tout le monde connaît cette phrase. Louis XVI, interrogeant le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, « Est-ce une révolte ? Non, sire, c'est une révolution. » Il est évident que le mot « révolution », à ce moment-là, n'avait pas du tout le même sens qu'il a pris aujourd'hui pour nous. Alors, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour Louis XVI et pour les gens de l'époque? Quelle était leur grille de lecture? Et là, Milner nous propose de nous reporter au savoir culturel, au savoir dont disposaient les gens à cette époque. Et il fait référence à un auteur grec, romanisé, qui s'appelle Polybe, P-O-L-Y-B-E, 206-126 avant Jésus-Christ, qui a codifié la nomenclature des régimes politiques et le cycle de leur évolution. Et ça faisait partie des connaissances basiques au XVIIIe siècle, que je vous rappelle, alors qui reprennent les analyses de Platon et d'Aristote. Alors je rappelle brièvement, sans trop rentrer dans les détails, pour Polybe, il y avait six régimes, trois régimes politiques, trois fondamentaux et trois formes fondamentales et trois formes dégradées. Alors, premier régime, pouvoir d'un seul ou monarchie, forme dégradée, tyrannie. Deuxième régime, pouvoir des meilleurs ou aristocratie, forme dégradée, oligarchie, c'est-à-dire qu'un ensemble de gens capturent le pouvoir. Troisième type de régime, pouvoir du peuple tout entier ou démocratie, qui se dégrade en gouvernement par la foule, qu'on appelle d'un terme technique lococratie. Et les mots qui résultent de cette forme dégradée de régime sont résolus par l'appel au pouvoir d'un seul, donc à nouveau par la monarchie. Donc ce que dit Polybe, c'est qu'il y a un cycle permanent qui permet de passer d'un système à un autre, et donc c'est une sorte de révolution, au sens astronomique du terme. Donc le mot révolution ne désignait pas du tout quelque chose de novateur, hein, mais un cycle. Alors, autre remarque de Polybe, c'est qu'il pense que ce qu'il y a de mieux, ce sont les régimes mixtes. Jamais les régimes purs, ou monarchie, ou aristocratie, ou démocratie. Il faut un système mixte. Et comme pour comprendre ce que c'est qu'un système mixte, il prend l'exemple des constitutions ou américaines ou françaises telles qu'elles existent aujourd'hui, où en fait on a un système d'élection avec le président, on a des systèmes d'élection avec des représentants au niveau des sénateurs et des députés. Le pouvoir judiciaire est séparé du reste, donc il y a un équilibre, on cherche une sorte d'équilibre des pouvoirs entre les différentes parties pour éviter les formes dégradées des formes fondamentales des régimes. Alors, dernier point, le passage entre les différents types de régimes se fait toujours de façon violente, coup d'État, complot, guerre civile. Avec cette grille de lecture, le roi et le duc, et les gens à l'époque, ne pouvaient comprendre les événements et n'étaient pas préparés à la suite des événements qui allaient se découvrir, qui allaient suivre. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que la monarchie à l'époque est perçue. Alors je simplifie énormément, hein, parce que Il y a beaucoup de détails, donc je vais à l'essentiel. La monarchie est perçue comme une tyrannie. La fuite à Varennes est perçue comme une trahison sans équivalent dans l'histoire. Un roi qui abandonne ses sujets, ça ne se voyait pas. Et sortait du schéma polybéen. La tyrannie plus la trahison ont fait que la monarchie était perçue comme régime criminel. À supprimer en tant que tel, symboliquement avec la destitution du roi et réellement avec l'exécution du roi, même si beaucoup de députés, enfin je ne sais plus si ça s'appelait les députés à l'époque, même si beaucoup de députés étaient opposés à la peine de mort. En plus, il y avait des circonstances historiques exceptionnelles, il y avait la menace de guerre, enfin la guerre qui existait avec les agressions extérieures, la guerre à l'intérieur, puisque les nobles, les prêtres réfractaires, les opposants à la levée en masse, lorsqu'on a décrété qu'il fallait que tous les jeunes aillent se battre contre l'ennemi, il y a eu une levée en masse obligatoire qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, hein, même s'il y avait une forme d'enthousiasme pour certains. Enfin, le contrôle des prix qui gênait beaucoup les agriculteurs. En conséquence de ces circonstances historiques, plus de cette perception d'une tyrannie et d'une trahison, ont fait que les révolutionnaires n'ont pas pensé qu'un régime mixte, tel que je l'ai défini tout à l'heure, était possible, qu'il fallait inventer. Et donc, ils ont inventé en essayant de constituer un gouvernement basé uniquement sur la démocratie et le pouvoir du peuple. Alors, les deux problèmes que soulève, ou les deux caractéristiques que soulève ce gouvernement de type nouveau, c'est ce qui fait encore débat aujourd'hui, c'est le problème de la terreur et, ce qui fait moins débat, l'innovation que constitue la Déclaration des droits. La violence révolutionnaire, il y a eu deux terreurs. Je rappelle, parce que moi j'ai rameuté mes souvenirs scolaires et là j'ai redécouvert ça. Il y a eu en 1792 ce qu'on a appelé les massacres de septembre, ou petite terreur, qui a consisté à ce que la foule est venue envahir les prisons pour sortir les nobles, les prêtres réfractaires, pour les extraire et puis les molester, et voire même les tuer. Donc il y a eu des milliers de gens qui ont été assassinés de cette manière-là. Et il y a eu une deuxième terreur, qui n'a pas été vraiment décidée en tant que telle par la Convention montagnarde en septembre 1993, mais des décisions ont été prises qui ont conduit à la terreur. Alors, en quoi c'est important que cela ait été plus ou moins décidé? C'est que c'était à ce moment-là, la terreur n'était plus laissée à l'initiative de la foule, mais était récupérée sous forme de violence légitime par un gouvernement. Le tribunal révolutionnaire s'inscrit dans un processus judiciaire réglé et réserve à l'État le monopole de la violence légitime et décharge le peuple d'être un exécuteur. Je rappelle que la peine de mort était la seule possible, en dehors de l'acquittement, car comme il s'agissait de la souveraineté du peuple, on était pour ou contre la souveraineté du peuple. Donc, par ces analyses, si vous voulez, Wilner essaye de montrer, il n'essaye pas de justifier la terreur, mais il essaye de montrer comment ça s'enchaîne et comment ça s'articule. Alors, comment sort-on de la violence de la Révolution française? Alors, pour reprendre une expression de Robespierre, en guillotinant les guillotineurs. Alors, c'est une solution qui n'a pas marché, puisque lui-même a été... guillotiné. Alors, de façon plus générale, c'est en poursuivant sans fin la révolution, c'est l'exemple de la révolution de Mao, et ce qui se passe souvent, et c'est ce qui est arrivé juste après la Révolution française, c'est qu'il y a le pouvoir autoritaire d'un homme, Napoléon, qui vient clore la période révolutionnaire. Et là, on retombe sur le schéma de Polybe. Alors donc, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la spécificité de la Révolution française avec les droits de l'homme et des citoyens. Alors moi, à titre personnel, j'ai souvent employé l'expression « les droits de l'homme et des citoyens » comme ça, comme une formule toute faite, et je n'avais pas bien aperçu ou pas bien vu qu'il y a une différence entre les deux expressions, droits de l'homme et les citoyens. Alors comment Comment expliquer ça? Alors, l'auteur prend l'exemple de Damien. Damien, c'est quelqu'un qui a essayé d'assassiner Louis XV, qui a été condamné à mort pour avoir tenté. Il n'a pas réussi, mais enfin, bon, il avait tenté. Et il a été exécuté de façon effroyable, puisqu'il a subi le supplice de la roue, il a été écartelé. Enfin, on a fait beaucoup de choses pour le punir. Alors, à l'époque, les gens considéraient qu'il était tout à fait normal qu'il soit condamné à mort, mais on trouvait que les conditions de son exécution, ça dépassait les normes, ça dépassait les limites. Et donc, on a pris conscience à ce moment-là, enfin, il y a peut-être d'autres événements, mais c'est l'événement symbolique qui permet de le comprendre. On a pris conscience qu'il y avait des droits qui étaient affectés à la personne, qui étaient indépendants des actes qu'il avait commis. Donc, en tant que citoyen, il méritait la mort, enfin, tel que c'était perçu à l'époque, mais en tant qu'homme, il ne méritait pas les conditions de sa mort. Alors, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, donc une différence entre droit de l'homme et le droit du citoyen. La deuxième remarque, c'est la définition des droits de l'homme, qui est la suivante, je vous le rappelle. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Là, on remarquera que l'égalité est fondée sur l'universalité biologique de la naissance. Donc, tout le monde partage au moins ce fait incontestable de la naissance. Donc, l'universalité biologique de la naissance est sur un principe d'égalité de droit. C'est pas évident parce qu'on a tous tendance à penser qu'on est tous inégaux de fait. C'est vrai, en plus. Donc, il y a le couplage entre cette universalité biologique et un principe. Et non pas sur des principes métaphysiques et religieux. Alors, les droits du citoyen sont inclus dans les droits de l'homme. Alors, au passage, je ne l'ai pas dit, vous m'excuserez, mesdames, mais à chaque fois, il parle des droits de l'homme-femme. Alors, moi, je dis les droits de l'homme, ça va plus vite, hein, si vous, je ne vous oublie pas pour autant. Hein. Donc, alors, remarque, les droits du citoyen ne peuvent pas rentrer en contradiction avec les droits de l'homme. Mais il peut y avoir des droits de citoyens différents dans chaque pays. D'ailleurs, c'est bien le cas. Hein. Ce qui est intéressant aussi, non, je vais vous le dire après, ça. Donc, il ne faut pas que ça soit en contradiction avec le. Donc, les droits du citoyen ne peuvent pas rentrer en contradiction avec les droits de l'homme, mais les droits de l'homme peuvent varier. Alors, c'est une complexité, ça. Pendant très très longtemps, on n'a pas considéré que la peine de mort était un problème. Ce n'était pas un problème du droit de l'homme de ne pas être condamné à mort. Donc, il peut y avoir des variations au niveau de la conception des droits de l'homme. Donc, c'est une difficulté parce qu'il faut à la fois vérifier que les droits du citoyen sont bien conformes aux droits de l'homme, mais si les droits de l'homme peuvent varier dans le temps, ça complique les choses. Alors, oui, d'accord. Et dernier point sur les droits de l'homme. C'est que si on dit que ça doit s'appliquer aux citoyens, donc il y a toute une série de considérations sur qu'est-ce que génèrent les droits de l'homme pour le citoyen, mais ce qui est plus intéressant de remarquer, c'est que si ça s'applique aux citoyens, les droits de l'homme, ça s'applique aussi aux non-citoyens. Par exemple, les étrangers, ou les gens qui n'ont plus toute leur raison, les fous, les malades, etc. Si on prend les expériences qu'ont fait les nazis médicales qu'ont fait les nazis, on voit bien que là, s'ils avaient appliqué les droits de l'homme, ils n'auraient pas exécuté les malades mentaux. Alors, en conclusion, une révolution, c'est la tentative d'échapper à la loi des cycles, mais finit toujours par y succomber. Une révolution viole la règle qu'en politique, on ne tue pas son adversaire. La révolution, qui est l'acte politique par excellence, se transforme en antipolitique. La Révolution française est radicalement hétérogène aux révolutions idéales qui se réclament d'elle, car elle a énoncé, comme la loi de gravitation universelle de Newton, les droits de l'homme-femme et du citoyen, et par conséquent ouvert la problématique du non-citoyen, qui est considéré par Milner comme le problème du siècle à venir. Il y aura de plus en plus de non-citoyens dans les pays, et ça va devenir compliqué. Et tout le monde sait qu'il y a des migrants à Ouistreham. Et invité à vérifier sans arrêt la conformité des droits du citoyen par rapport aux droits de l'homme. Donc la Révolution française va bien au-delà de la terreur. Et je terminerai en reprenant la dernière phrase du livre de Milner. Rien n'efface la terreur, mais la terreur n'efface pas la déclaration des droits. Voilà.